plus haut, 4 km de bouchons de poids lourds, essentiellement à cause des arbres qui sont tombés sur la route. Corinne et Daniel sont partis de Metz en début d'après-midi.
On part pour le week-end en Alsace. On a réservé l'hôtel, le spectacle, et on regrette un peu, quoi, hein, parce que ça fait 3h30 qu'on est sur la route. On a vu des arbres abattus sur la route, donc ça fait très peur, quoi.
Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Devinez où je suis. Et oui, je suis encore en train de conduire. Mais bon, c'est pas mal, ça me permet de faire mes petits enregistrements. Je passe un peu de temps dans la voiture et puis en même temps, je parle à... Pas à mon public, je vous parle à vous. Très chers auditeurs. Bien, merci de m'écouter encore une fois pour le quatrième épisode de la Réadio. Comme j'ai décidé de l'appeler. Pourquoi je veux faire mon petit épisode aujourd'hui? Je voulais vous parler de ma découverte de l'anesthésie réanimation, qui est la spécialité que j'espère choisir aux ECN à la fin de l'année. Alors je sais pas, peut-être que mon public est 100% médical, que des gens qui connaissent les études, que ce soit des médecins ou au moins des paramédicaux ou d'autres professions et qui connaissent ces études. Pour ceux qui connaissent pas les études, les études de médecine sont composées de deux concours. Le premier concours qu'on fait en première année, qui nous permet d'accéder aux études médicales à proprement parler, donc d'entrer en deuxième année. Et le deuxième concours a lieu en sixième année. Ce concours-là, il nous permet en fait de choisir. Tous les étudiants de sixième année de France passent en même temps le concours qu'on appelle les ECN, alors il y a plusieurs appellations, mais celle que je retiens moi, c'est épreuve classante nationale. Ce n'est pas un examen, ce sont des épreuves donc, et on est classé du premier au dernier entre tous les étudiants en sixième année de France. Et d'ailleurs, il y a aussi des étrangers qui viennent passer les ECN. Et ce classement nous permet de choisir à la fois une ville et une spécialité. Le premier classé choisit parmi tout ce qu'il y a à choisir, il peut choisir absolument tout ce qu'il veut. Le deuxième choisit ce qui reste sans le poste du premier, ainsi de suite, jusqu'au dernier. Généralement, on est à peu près dans les 8-9 000, ça varie d'une année à l'autre en fonction du nombre d'étrangers qui viennent passer le concours. Voilà. Les étrangers, c'est soit des... Il y a beaucoup de gens qui viennent de Roumanie, qui ont fait les études de médecine en Roumanie et qui veulent exercer en France et qui ont besoin de passer ce concours pour faire leur internat en France. Il y a aussi des étrangers qui viennent d'autres pays. Voilà, moi, dans la fac où je suis, il y a beaucoup de gens qui viennent d'Arabie Saoudite et donc qui viennent passer le concours en France. Et donc tous ces gens-là, on passe le concours et ensuite on est classé, on choisit notre ville et notre spécialité. Alors moi, j'ai pas encore choisi ma ville d'exercice. Peut-être que le classement choisira pour moi, mais je pense... C'est pas encore définitif et puis peut-être que j'aurai pas le choix si je suis pas bien classé. Je pense choisir l'anesthésie réanimation comme spécialité. Ça a été un long parcours pour choisir cette spécialité qui finalement est pas... Enfin, le choix de cette spécialité est arrivé très tard, hein, il y a quelques mois. En fait, quand je suis arrivé en première année, je voulais juste faire médecine, j'avais pas vraiment d'idée de spécialité, je savais que je voulais soigner des gens en étant médecin, mais sans avoir vraiment de connaissances du monde, parce que moi je sors de rien du tout, ma famille est pas du tout dans le monde médical, donc je suis le premier à connaître tout ça, à expérimenter ce monde un peu particulier, et donc je savais pas trop dans quoi je me lançais, donc j'avais pas d'idée de spécialité. Et donc quand je suis arrivé en deuxième année, après ma première année, j'aimais bien l'embryologie, et puis la biologie de la reproduction. J'étais plutôt pas mal fort dans ces domaines et donc j'étais tuteur à ce moment-là de biologie de la reproduction et d'embryologie. Et donc, tout ça faisant, je m'étais dit que l'obstétrique, ça me plairait bien. Il y avait à la fois le côté médical, chirurgical, avec de l'imagerie, avec des urgences. Enfin, c'est une spécialité très complète, l'obstétrique, je trouve. Et même si j'ai changé d'avis depuis, je le pense toujours que c'est une spécialité très complète. À la fois, un obstétricien, c'est quelqu'un qui va faire de l'imagerie, faire des échographies, mais aussi d'autres choses. Hein. On n'est pas limité à l'échographie quand on fait de l'obstétrique. C'est quelqu'un qui fait de la médecine, qui va consulter des femmes enceintes, faire des traitements médicaux, voilà, à part entière. C'est aussi quelqu'un qui fait de la chirurgie, qui va faire des césariennes, mais aussi tout un tas de chirurgies autour de la femme enceinte. Et c'est aussi les pires urgences qui puissent arriver, c'est généralement des urgences obstétricales. Alors moi, à l'époque, je n'avais pas notion, enfin je soupçonnais pas l'existence de l'anesthésiste. Pour moi, c'était une spécialité qui m'intéressait pas du tout, parce que j'en avais l'image qu'en a la société, c'est-à-dire un mec qui boit du café et qui dort derrière un champ toute la journée. Donc j'avais pas notion de l'existence de l'anesthésiste. Donc pour moi, quand il y avait un problème au bloc opératoire, c'était le chirurgien qui opérait, et donc c'était le chirurgien qui réglait le problème. Donc j'avais pas. Voilà. Donc pour moi, toutes les urgences obstétricales étaient gérées par l'obstétricien. Et donc ça allait de voilà, l'hémorragie de la délivrance. On peut mourir en. Enfin, je dis on, mais je risque pas de mourir d'une hémorragie de la délivrance, moi, mais. Une femme enceinte peut mourir d'une hémorragie de la délivrance en quelques minutes et donc c'est quelque chose de grave et donc il faut voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en charge très rapidement. Et moi, l'urgence, c'est quelque chose qui me. Ah, bordel, on a été coupé. Ah, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Bon, je suis passé en mode ne pas déranger, silencieux, personne ne peut m'appeler, même si le président de la République, donc normalement, on devrait pouvoir finir cet enregistrement sans être dérangé. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Je crois que je parlais des urgences en obstétrique. Et donc, je disais que les urgences, ça me plaît beaucoup et que les obstétriciens font beaucoup d'urgences aussi. Voilà. Il y a un truc que j'avais remarqué quand j'ai fait mon stage au SAMU, c'est que à l'entrée des urgences gynécologiques, il y a un bloc en fait. C'est le bloc des urgences pour faire des césariennes en urgence. Je trouve ça, c'est pas génial. Enfin, c'est comme tout, quand on fait de l'urgence, quand on fait de la médecine, on se réjouit des fois de la maladie et du malheur des gens. Parce que nous, ça nous fait des trucs. Voilà, on fait ce métier aussi pour voir des. Enfin, on fait ce métier pour voir des gens malades. On fait pas ce métier pour voir des gens en bonne santé. Enfin, pas le métier que moi je veux faire en tout cas. Donc, du coup. On se réjouit un peu de quand ça foire. Mais bon, du coup, il y a un bloc à l'entrée des urgences gynécologiques qui sert à faire des césariennes en urgence ou autre chose. Voilà. Et donc, je trouve ça assez drôle. Et donc, voilà. Tout ça pour dire que l'obstétrique, c'est une spécialité très transversale, à la fois du côté médical, de l'imagerie, de la chirurgie, de la recherche. Et puis, il y a aussi. Espèce de dualité de prendre en charge à la fois une femme adulte et un fœtus, un embryon. Voilà, gérer en même temps quelque chose de physiologique et quelque chose de pathologique. Enfin, je trouve que c'est une spé très intéressante. Et donc, je m'étais lancé là-dessus. Puis, il y avait aussi le côté quand on. J'étais au début de mes études, forcément tout le monde me dit, puis tout le monde me le dit encore, mais maintenant j'ai une réponse à peu près claire à apporter. Tout le monde demande, ah mais qu'est-ce que tu veux faire comme spécialité? Et vu que moi je savais pas trop, alors même si l'obstétrique me plaisait, mais je sentais au fond de moi que c'était pas. J'avais besoin de trouver ma spé, j'avais besoin de trouver le truc où je serais sûr de moi, où je me lancerais les yeux fermés. Et cette spé-là, c'était pas celle qui me faisait vibrer. Et donc je disais, bon, je vais être obstétricien, mais sans en avoir vraiment le. Enfin, en n'étant pas convaincu de ce que je disais, quoi. En espérant peut-être trouver une spécialité qui me ferait vibrer plus tard. Et donc, bon, j'ai commencé mes études, j'ai fait ma deuxième, ma troisième année en restant sur cette idée-là. De toute façon, en première et deuxième année, en deuxième et troisième année, pardon, on ne fait pas de stage, pas de vrai stage, en fait, on n'est pas très impliqué dans le fonctionnement de l'hôpital, on apprend les sciences fondamentales de la médecine. Puis j'ai commencé mon externat, j'ai fait pas mal de stages dans des spé qui m'ont pas trop, voilà, qui m'ont intéressé, mais qui m'ont pas non plus transcendé. Et puis un jour, j'ai fait une garde de cardiologie aux urgences cardiologiques. Les urgences cardiologiques, c'est en gros, là on reçoit les gens qui font des infarctus, là on reçoit les gens qui ont des troubles du rythme cardiaque, les gens qui sont en post coronarographie, qu'on prend en charge, qui, en fait c'est un peu de la. Il y a un peu de tout, c'est à la fois des urgences de premier recours, à la fois c'est un service de thérapeutique, à la fois c'est une unité de soins intensifs cardiologiques où il y a des gens qui sont intubés, ventilés, comme un peu en réanimation. C'est de la réanimation en fait, mais fait par des cardiologues. C'est pas un gros mot. Et donc je faisais ma garde, c'était pas la première que je faisais. Et j'étais aux urgences, il devait être à peu près 4 h du mat. Et je commençais à m'endormir. J'avais notion qu'il y avait une entrée qui allait arriver. Et donc, comme dans ce service-là, on faisait les entrées, bah, j'attendais mon entrée. Puis je m'endormais un peu tout seul aux urgences où il n'y avait plus personne. C'est pas aux urgences normales, c'est dans les étages en fait. C'est dans les services de cardiologie. Donc finalement, il n'y a pas l'espèce de brouhaha continuel, espèce d'agitation continuelle qu'il y a aux urgences au sous-sol où c'est tout. Enfin, on peut pas s'endormir là-bas. Donc là, moi, j'étais sur ma chaise et puis je m'endormais un peu. Puis d'un coup, il y a une infirmière qui arrive en courant, qui attrape un chariot d'urgence qui était devant moi, enfin qui était à côté de moi, et qui me dit un arrêt, voilà 35. Et elle se barre en courant avec le chariot. Et donc moi, je n'avais jamais assisté à une urgence, une vraie urgence vitale. Et donc moi, je me retrouve nez à nez avec mon incompétence totale, c'est-à-dire, d'accord, il y a une urgence, bon, très bien. Moi, je suis étudiant en médecine en quatrième année, c'est mes toutes premières gardes, je ne sais rien faire, je n'ai pas le droit de prescrire. Bon, donc, bon, bah, je me lève, il y a quand même une urgence, donc je ne vais pas rester assis, quoi. Ce ne serait pas politiquement correct de rester assis puis de dire, bah non, je m'en fous. Donc je me lève, puis ça m'intéressait aussi un peu, donc j'y vais sans courir, enfin en marchant, parce que de toute façon, je savais pas bien à quoi j'allais servir en y allant. Et donc je me pointe dans la chambre, et là je vois une infirmière et une aide-soignante en train de masser le patient. Qui était manifestement donc en arrêt cardiaque. Enfin, c'était un peu le bordel. Tout le monde, il y avait que 4 personnes et puis moi. C'était un peu le bordel. Chacun, enfin, on voyait qu'ils étaient habitués quand même. Hein. Après, quand j'ai vu d'autres arrêts cardiaques dans des services moins entraînés, je me rends compte qu'ils étaient quand même bien rodés en cardiologie au niveau arrêt cardiaque et que ça, c'était pas si le bordel que ça. Quand on va faire un arrêt cardiaque dans un service de médecine qui n'a pas l'habitude de faire des arrêts, c'est quand même autrement le bordel. Et donc je me pointe, et puis juste après, le chef arrive avec l'interne, et un chef de clinique, c'était le chef de clinique super sympa, jeune, dynamique, et pas pris, enfin vraiment détendu. Et donc il me dit, vas-y, mets-toi à masser. Bon, je savais masser, j'avais déjà fait avant, et puis j'avais fait mon PSC1, mon premier niveau de secours, en tout cas ça, les premiers secours civiques niveau 1, voilà. Donc j'avais fait ça, donc je savais masser, donc je me mets à masser, puis on commence à perfuser le patient. Moi je massais toujours, et puis il y a l'interne qui se met en place pour intuber, le chef qui donne ses instructions, tout ça. Puis moi j'étais en train de masser, et bon, je me suis un. Ceux qui ont déjà eu cette expérience de masser, en étant simplement là pour masser, c'est-à-dire en n'ayant pas de prise en charge autre derrière, à un moment, enfin moi en tout cas, je me suis mis à regarder la personne que je massais, son visage, je m'en souviens très bien, c'était il y a 2 ans, hein, il y a plus de 2 ans, mais je me souviens très bien du visage de ce monsieur. Et bah, je suis un peu parti dans mes pensées en disant, en déconnectant, c'est une sensation bizarre quand même d'être en train de masser quelqu'un pendant que dans cette atmosphère ultra tendue où tout le monde court, où il y a la vie de quelqu'un qui est en jeu, et du coup bah voilà, je suis un peu parti dans mes pensées en regardant la tête de ce monsieur. Et voilà, c'est vraiment ce moment-là dont je me souviens. Puis après, donc l'interne n'a pas réussi à intuber, c'est le chef qui l'a fait. On l'a ventilé. Après, j'ai arrêté de masser, et puis c'est mon chef qui a. C'est mon interne qui a repris le massage et qui massait n'importe comment. Donc mon chef a repris le massage derrière. Et du coup, moi, je me suis retrouvé à ventiler à la tête. Donc voilà, donc c'était. Alors, bon, ce monsieur est décédé. On n'a pas réussi à récupérer un rythme cardiaque. Efficace en tout cas. On l'a pas choqué, on n'a pas délivré de choc électrique, on n'a pas défibrillé parce qu'il ne fibrillait pas. Et donc, bah, ce monsieur est mort. Voilà, c'est faussement triste, mais voilà, ça arrive. C'était un monsieur qui avait de gros, gros, gros antécédents cardiologiques. Il était ce qu'on appelle tritronculaire, donc il avait tous les, comment dire? Les troncs les vaisseaux qui irriguent le myocarde, le muscle du cœur, qui était à peu près bouché. Donc ça se passait pas bien. Donc il était hospitalisé pour ça. Et il attendait une coronarographie le lendemain, mais il l'a jamais eu. Il avait des raisons de faire son arrêt cardiaque. On aurait peut-être pu le récupérer. Enfin bon, le fait est que ça a pas réussi. Et donc voilà. C'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, la réanimation, ça me plaît. Je me souviens pas de par quel raisonnement je me suis dit ça. C'était pas vraiment de la réanimation, en fait. Le quotidien, après, je l'ai vécu, j'étais pas passé en réanimation. Le quotidien de la réanimation, c'est pas ça, en fait. Le quotidien de la réanimation, c'est après ça. Généralement, c'est quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque dans la rue, qui est récupéré par les pompiers et le SAMU, et qui arrive en réanimation, mais c'est aussi des gens qui font des infections gravissimes, qui arrivent en réanimation et qui sont pas en arrêt cardiaque. 99% du temps, en réanimation, il n'y a pas d'arrêt cardiaque, et c'est pas ça qu'on fait. Donc bon, c'est voilà, ça m'a donné l'envie de m'intéresser en tout cas à la réanimation, et donc de faire un stage. J'ai fait mon stage en troisième année, non, pas en troisième année, en cinquième année. En cinquième année, en réanimation au CHU, et je me suis vraiment éclaté. C'était un service de fou, avec beaucoup de recherches, avec des chefs qui étaient tous impliqués dans la formation, qui étaient intéressants, ils étaient tous complémentaires. Enfin, ils avaient vraiment. Enfin voilà, c'était vraiment le service parfait où j'aurais envie de bosser. Parce qu'il y avait une bonne entente, on discutait, il y avait des étudiants, il y avait des internes impliqués. Enfin, moi, je m'amusais vraiment bien. En garde, c'était vraiment la folie. En fait, en garde, on travaillait plus que l'interne et le chef. Parce que l'externe de garde en réanimation, il était responsable de faire les entrées, c'est-à-dire de faire les observations écrites du patient. Donc c'était vraiment une responsabilité importante parce que le matin, il fallait le présenter au staff devant le chef du service qui était à la fois le doyen de la faculté, tous les PH, tous les internes. Enfin voilà, c'était vraiment un truc un peu sentencieux, sans avoir dormi de la nuit parce qu'il était impossible de dormir dans ce service en garde. Et donc Donc on avait cette responsabilité-là. On avait aussi une autre responsabilité qui était un peu moins intéressante, mais qui était celle de faire les gaz, de passer dans la machine les gaz du sang. En fait, il n'y a qu'une machine, et c'est la machine de garde sur l'hôpital. Donc en fait, tu as le téléphone de garde de l'externe de réanimation, c'est le téléphone de garde des gaz du sang, à la fois de la réanimation et puis de tous les autres services. Donc on a cette responsabilité-là, et puis on a les autres responsabilités qui sont celles du CHU, c'est-à-dire préparer les dossiers s'il y a une sortie, et puis quoi d'autre, faire les ECG. Et donc, avec tout ça, en fait, c'est infernal, le téléphone sonne tout le temps. En fait, le téléphone de l'externe de réanimation sonne plus souvent que celui de l'interne et que celui du chef réuni, c'est infernal. Mais bon, voilà, c'était une bonne expérience. Moi, je me suis vraiment marré. À la fois, quand tu te retrouves avec le tour de gaz du sang de 4 h du mat, puis un truc, il faut les analyser parce que bah, ton chef et ton interne dort, alors est-ce que je le réveille pour ce gaz du sang-là? En même temps, tu peux pas prendre des initiatives sur les respirateurs parce que c'est quand même trop. Enfin, c'est pas possible, déjà, t'as pas le droit de prescrire, et puis en plus, c'est trop compliqué pour un niveau d'externe pour prendre ce genre de décision. Voilà. Moi, ça m'a bien plu, je me disais. Je regardais mes gaz du sang, puis qu'est-ce que je lui ferais à lui, comment il est, quels paramètres ventilatoires il a, qu'est-ce que je modifierais, tout ça. Ça me faisait bien marrer. Donc voilà. Puis en plus, j'aime bien, ça c'est mon trip perso, mais j'aime bien me mettre dans des situations difficiles où c'est un peu galère. Souvent les gens, dans la promo, les gens n'aiment pas trop la réanimation parce que c'est des gardes difficiles, il faut s'impliquer beaucoup, et du coup, moi j'adore ça. Et donc voilà, c'était un service qui m'a beaucoup plu. Et puis je me suis intéressé en même temps au parcours pour devenir réanimateur, et j'ai découvert qu'il y avait plusieurs façons de faire. Alors ça va changer dans l'avenir, mais pour moi, il y a plusieurs façons de faire. Je peux soit faire le métier d'anesthésiste réanimateur, métier que tout le monde connaît, soit faire le métier de réanimateur médical, qui est un peu différent, qui est aussi possible de faire en étant anesthésiste réanimateur. Mais en fait, les réanimateurs médicaux peuvent aussi être d'une autre spécialité. Par exemple, on peut faire cardiologue, on peut faire je sais pas, médecine interne, on peut faire médecine infectieuse, on peut faire médecin généraliste, et ensuite faire un diplôme supplémentaire pour devenir réanimateur médical. Alors, ça donne pas le droit de faire de la réanimation chirurgicale, ça donne pas le droit de faire de l'anesthésie, ça donne juste le droit de faire de la réanimation médicale. Et donc voilà, j'ai découvert ces deux parcours, et moi je me suis senti plus proche de l'anesthésie de réanimation que de la réanimation médicale. Parce que déjà je ne me vois pas faire un internat de médecine interne, par exemple, ça me correspond pas du tout. Ou d'autres choses, ou de cardiologie, ça ne me correspond pas. J'ai vu un peu ce qui se passait dans ce genre de service et ça ne me plaît pas. Et en même temps, même si l'anesthésie, c'est pas la spécialité qui me fait envie, parce que voilà, moi, ce qui me plaît, c'est la réanimation. Je connais pas cette spé, en fait. J'y suis jamais allé. Au bloc, j'ai toujours été du côté chirurgie. J'ai jamais fait d'anesthésie. Hormis une semaine de stage en troisième année, qui sont passées super vite, où j'ai fait un peu d'intubation, mais on m'a jamais expliqué un respirateur. On m'a pas, enfin, on me l'a expliqué, mais j'ai pas compris vraiment tous les enjeux. On m'a expliqué un peu l'anesthésie, mais j'en ai rien retenu et rien compris. Donc je connais pas l'anesthésie. Donc voilà. Mais même si c'est pas une spé qui m'intéresse et que je connais au premier abord, ça me correspond plus parce que c'est la façon, les soins intensifs comme ça, c'est ce que j'aime. Des patients scopés, intubés, ventilés, des patients qu'il faut suppléer, en fait, il faut prendre en charge leur fonction vitale à leur place, c'est ce qui me plaît. Et donc, et puis il y a aussi le côté que j'ai pas non plus fait de réanimation chirurgicale, j'ai pas fait d'anesthésie, j'ai fait un peu de SMUR et ça m'a beaucoup plu. Et quand on est un réanimateur médical sans être anesthésiste, on peut pas faire tout ça. Donc, je me suis dit que l'anesthésie réanimation, ce serait une spé qui m'intéresse. Enfin, c'est une spé qui m'intéresse. Et si je peux la choisir, aujourd'hui en tout cas, si je devais choisir maintenant, je choisirais cette spécialité-là. Peut-être que ça va changer, hein. Voilà, tout ça m'intéresse, le côté réanimation, avec alors la réanimation médicale, parce que c'est ce que je connais le plus, mais peut-être autre chose aussi. Le SMUR, j'ai eu la chance, c'était pas possible dans ma fac, et je me suis battu pour faire un stage au SMUR, au SAMU et au SMUR. Je ferai peut-être un épisode là-dessus d'ailleurs, parce que c'est vraiment un truc ultra intéressant et une spé passionnante que j'ai envie de faire aussi. Donc voilà. Donc voilà pourquoi je me passionne pour l'anesthésie et la réanimation et pourquoi je compte. J'essaie de conduire en étant en sécurité en même temps. Là, si monsieur veut bien me laisser passer. Merci monsieur. Et donc voilà, l'anesthésie réanimation, ça me plaît beaucoup, j'ai vraiment envie de faire ça. Peut-être que je passerai par une autre voie, peut-être que je choisirai une spécialité médicale. Vais pas dire ça 10 fois de suite, ça ne sert à rien. Je pense que c'est les seules choses qui m'ont. C'est vraiment au moment où j'ai pris en charge cet arrêt cardiaque que je me suis rendu compte que là. Que c'est cet aspect-là qui me plaisait. Et aussi, voilà, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, mais que j'ai pas dit. Pour revenir sur le côté obstétrique dont je parlais au début, en fait, en apprenant l'aspect d'anesthésiste réanimateur et en comprenant, en m'intéressant à ce que faisait ce corps de métier, enfin cette profession, je me suis rendu compte qu'en fait, dans certains cas, en fait, c'était l'anesthésiste qui prenait en charge la patiente dans des urgences. Et contrairement à ce qu'on pense, quand vous avez pas un gros polytraumatisé, ce qu'on appelle un polytraumatisé, c'est quelqu'un qui a par exemple eu un accident en voiture et qui se retrouve avec voilà, plusieurs fractures, une plaie du foie, un traumatisme crânien grave. En fait, c'est quelqu'un qui a une mise en jeu de son pronostic vital, c'est-à-dire qu'il peut mourir de ses blessures. Et ben, dans cette situation-là, quand le patient arrive à l'hôpital, il est pris en charge par l'anesthésiste du bloc opératoire et pas par les chirurgiens. Les chirurgiens, ils sont là pour faire un acte technique. C'est pas réducteur, hein, mais c'est l'anesthésiste qui décide de la prise en charge, dans quel ordre on fait les choses. Bien sûr, c'est les chirurgiens qui restent maîtres du geste qu'ils vont faire, qui restent maîtres de l'indication, mais qui règlent l'ordre de la prise en charge et les suppléances vitales de toute première intention, c'est l'anesthésiste. Et donc, moi, ça m'a beaucoup plu et je me suis dit, même si j'y suis jamais, oula, même si je n'y ai jamais été, je me suis dit que le bloc d'urgence, ça devait être un truc super et que ça me plairait, je pense vraiment. Donc, voilà. Voilà, c'est ce qui m'a conduit à me passionner pour l'anesthésie réanimation. Tous les jours, ça me le confirme, même dans mes études, même quand je suis dans mes bouquins, même quand je discute avec des anesthésistes réanimateurs, ça me confirme que j'ai envie de faire ce métier. Le métier est un peu en train de changer, voilà, le SMUR, ça devient un peu moins le métier, mais bon, la base reste quand même la réanimation médicale, chirurgicale, et puis du SAMU et du SMUR. Et donc ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Voilà. Ben, merci de m'avoir écouté. C'était un truc très personnel aujourd'hui, mais bon, c'est intéressant d'entendre parler de ces spécialités et pourquoi ça m'intéresse. Je sais qu'on est tous différents, mais il y a plein de gens à qui se discute que ça intéresse la réanimation, et même les gens qui ne sont pas intéressés par le métier de médecin, bah, finalement, la réanimation, c'est un truc un peu spécifique. Le SAMU, ça fait un peu rêver, et donc les gens aiment beaucoup quand on parle de ce métier-là. Donc voilà. Bah, merci de m'avoir écouté et puis bah ciao!